Radio 1, la première FM de Tahiti, vous offre une nouvelle heure. Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Vous écoutez Radio 1, la première FM de Tahiti, il est pile midi. Tout de suite, on retrouve les titres présentés par Wallis Glaise pour ce journal local. Bonjour Wallis.
Bonjour Benny et bonjour à tous. Le point coronavirus, 596 cas, 282 considérés comme guéris. 3 semaines de stock de tests limite au stade 4. Les dernières informations sanitaires dans ce journal. Devant une certaine frilosité des communes pour le recours à l'emprunt, l'Agence française de développement rappelle leur rôle clé dans la relance. Les détails bien sûr dans quelques instants. Et puis enfin en justice, il tue son frère au cours d'une bagarre.
596 cas déclarés, 282 cas guéris. Une nouveauté, le nombre de cas actifs.
Depuis le 15 juillet, le nombre de cas cumulés de Covid positifs s'élève à ce jour à 596. Mais ce chiffre donne le total de cas détectés depuis le début, qui ne fait qu'augmenter. Pourtant, une bonne partie de ces personnes sont aujourd'hui guéries. Et elles le sont à présent à 282 aujourd'hui. Il n'y a donc en réalité que 384 malades du Covid en ce moment. C'est ce nouveau chiffre qui vient de faire son apparition sur le tableau du bureau de veille sanitaire, un indicateur sans doute plus représentatif de la réalité de l'épidémie. En parallèle, il y a 10 personnes toujours hospitalisées, dont 3 sont en réanimation. La moyenne d'âge des cas confirmés est de 36 ans.
Pas de pic et pas de chute, l'épidémie de Covid-19 avance à bas bruit en Polynésie.
Calmer les inquiétudes les plus vives tout en gardant la population mobilisée, c'est l'exercice tout en nuances auquel s'est prêté à nouveau le ministre de la Santé, Jacques Raynal, lors d'un point presse hier. Sur le papier, les chiffres sont bien moins angoissants qu'il y a quelques semaines. Le nombre de guéris a grimpé plutôt vite. 77 personnes sont sorties d'isolement, souvent après 10 jours sans aucun symptôme. Alors que le débat fait rage sur la politique sanitaire du pays, le ministre de la Santé a donc des arguments pour assurer.
On est dans une évolution. Moi j'appelle à bas bruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pic. Il n'y a pas de pic, mais il n'y a pas de chute non plus. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des chutes. Si on voyait une augmentation rapide des cas et une augmentation rapide de nécessité d'hospitalisation, bien évidemment qu'à ce moment-là on serait beaucoup plus inquiet. On serait inquiet pour nos capacités à subvenir à tous les besoins. Car ce que l'on souhaite, c'est d'avoir toujours zéro mort à la sortie de cette épidémie.
Les autorités n'ont pour l'instant pas l'illusion de pouvoir stopper complètement l'épidémie. L'idée est donc de ralentir au maximum sa progression.
Tout ce que nous faisons, c'est pour ralentir la diffusion du virus, car nous n'avons pas l'illusion pour l'instant de la stopper complètement, empêcher que ce virus se transmette, notamment aux personnes fragiles, déjà malades, les porteurs de carnet rouge, comme on dit. Hein. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on va étaler suffisamment le parcours du virus, de façon à ce qu'il disparaisse à un moment donné. Et à un moment donné, il disparaîtra. Alors, on me demandait ce matin combien de temps ça allait durer. Ben moi, je sais pas, 6 mois. Non, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais j'espère que ça durera le moins longtemps possible.
Les chiffres ne montrent plus une explosion de cas, mais le virus circule bien toujours, raison pour laquelle des mesures sanitaires restrictives ont pour être mises en place, notamment des confinements localisés, écoutez-le.
Si les différents clusters que l'on a pu identifier récemment venaient à augmenter, à exploser en quelque sorte, c'est vrai qu'à ce moment-là, on rentrerait dans une phase où il faudrait contraindre les populations à rester chez elles, dans des zones ou des quartiers ciblés. Eh bien, ça, c'est pas dans les mains du ministre de la Santé, c'est dans les mains du haut-commissaire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut en prêt assurer la sécurité de ces personnes. Et puis, il faut assurer la sécurité sanitaire, c'est-à-dire empêcher les gens de bouger quand on leur a demandé de ne pas bouger.
Les foyers de contamination récemment découverts à Mahina seraient en train d'être maîtrisés d'après le bureau de veille sanitaire. Sierra Yatea et Porapora comptent chacune 6 cas. L'attention du bureau de veille sanitaire reste sur la zone urbaine de Papeete qui en concentre 268 entre Paea et Mahina.
Préavis de grève dans l'éducation.
Les syndicats SNETA FO Polynésie, la SPEP FO et la FNEC FP FO Polynésie ont décidé de déposer un préavis de grève pour le mardi 8 septembre. Parmi leurs revendications, la modification du calendrier scolaire sur le premier trimestre avec une coupure de 2 semaines en septembre pour limiter au maximum la propagation du virus, la fermeture automatique pour 48 heures de tout établissement où apparaît un cas ou une suspicion de cas positif ou encore le recrutement de personnel complémentaire. Ces syndicats de l'éducation demandent également également la mise à disposition de masques gratuits pour les élèves et étudiants de plus de 11 ans. Il voudrait également que la prise de température devienne systématique à l'entrée des établissements scolaires. Autre demande, que les tests des personnels de l'éducation et des élèves soient traités en priorité après les personnels médicaux et les personnes fragiles.
La relance avec les communes qui ont de vraies marges de manœuvre en matière d'investissement.
L'AFD a présenté hier la 7e édition de son observatoire des communes. L'établissement public national, principal partenaire financier des collectivités polynésiennes, a fait porter son étude sur les années 2015 à 2018. Si les disparités sont importantes entre les plus petites municipalités et les plus peuplées, ce panorama global permet tout de même de faire état de la bonne santé générale des 48 collectivités. Côté investissement, l'AFD salue des efforts, notamment en 2018, leur investissement a atteint 9,1 milliards de francs, mais c'est surtout sur le taux d'endettement faible des collectivités que l'agence interpelle. Écoutez Sévan Marchand de l'AFD.
Alors, le taux d'endettement, donc je le disais, en Polynésie, on est à 15,9. En métropole, on est autour de 80%. En Calédonie, à 62%. Alors, le but, c'est pas de dire qu'il faut aller jusqu'à 60% ni 80%, mais en tout cas, l'écart est quand même considérable et il y a probablement des marges d'endettement qui sont supportables pour les communes. Après, effectivement, la situation n'est pas la même dans une grande commune et dans une petite commune des archipels. Si on regarde, par exemple, l'autofinancement, on constate qu'en fait, les communes de plus de 10 000 habitants concentrent 85% de cette épargne.
Déchets, eau, assainissement, les besoins ne manquent pas à investir. Mais pourquoi faire? Comme le rappelle Céline Gilquin, directrice de l'AFD en Polynésie, les communes ont déjà un rôle à jouer dans la relance économique.
Notre message important aujourd'hui, où nous retrouvons dans un contexte économique incertain, c'est que les communes ont un rôle à jouer dans la relance économique et ont des capacités d'investissement pour les années à venir, évidemment au bénéfice de leur population, pour améliorer la qualité de vie des populations, et aussi un rôle à jouer à travers la relance économique, puisque réaliser des investissements, c'est aussi contribuer à la relance économique, faire travailler les entreprises du territoire et éviter de tomber dans une récession, contribuer à la relance aux côtés des autres acteurs, État et pays.
Des propos recueillis par Charlie René.
Direction vers la cour d'assises. Il tue son frère au cours d'une bagarre.
Un nouveau procès s'est ouvert hier devant la cour d'assises. Un homme de 40 ans jugé pour avoir mortellement frappé son frère au cours d'une bagarre à Paya en mars 2018. Mais le profil de l'accusé interroge énormément. Sous tutelle, il n'aurait pas joui de toutes ses facultés mentales au moment des faits. Selon son avocat, l'homme dit entendre régulièrement des voix. Il le fait souvent référence à Satan, notamment. Est-il ou non schizophrène? Tous les experts ne sont pas d'accord sur cette question. Une chose est sûre, est que l'homme n'avait pas l'intention de tuer son frère. Tous les témoignages le confirment bien. Son frère est venu l'agresser en premier. Il dit regretter sincèrement les faits. Les débats se poursuivent aujourd'hui et le verdict est attendu en fin de journée. L'accusé encourt un maximum de 30 années de réclusion criminelle. Voilà pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.